raconte. Christophe Ondelatte.
Nous allons nous intéresser au cas de Jamel L'Huilmi. En 2016, il a été condamné à 30 ans de prison avec 18 ans de sûreté pour avoir assassiné sa femme Kathleen et tenté 2 ans plus tard de faire tuer sa petite amie Julie. Il avait fait signer à l'une et à l'autre des assurances sur la vie. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Jamel L'Huilmi.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
En juin 2010, Julie Derouette porte plainte à la gendarmerie. Lors d'un voyage au Maroc, où elle devait rejoindre son amoureux Jamel L'Huilmi, elle a manqué d'être assassinée. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et elle signale que L'Huilmi venait de lui faire signer une assurance sur la vie. Les gendarmes découvrent alors que 2 ans et demi plus tôt, la femme de Jamel L'Huilmi, Kathleen, est morte dans un accident de vélo et que l'oiseau a déjà empoché à l'époque 1 800 000 euros d'assurance décès. En garde à vue, les faits et gestes de L'Huilmi sont scrutés à la loupe par des gendarmes du département des sciences du comportement, des experts qui donnent un coup de main à leurs collègues enquêteurs.
Alors, le département des sciences du comportement a été créé en 2001 par la gendarmerie.
Commandant Daniel Roussette, département des sciences du comportement de la gendarmerie nationale.
Au départ, c'était un simple binôme, un référent police judiciaire et une psychologue criminologue qui formaient un binôme pour faire des études de dossiers et aussi des études de scènes de crime afin d'établir des profils d'auteurs. Au fur et à mesure des années, ce département s'est développé et a mis en place une conduite d'audition personnalisée sur les gardes à vue qui vont paraître difficiles aux enquêteurs. Souvent, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas d'éléments matériels, ils ont de nombreuses présomptions, des indices graves et concordants, et ils imaginent bien que durant la garde à vue, cela va être difficile de faire parler l'auteur des faits, surtout s'il a une personnalité, intelligente. Et là, ils demandent notre concours parce qu'ils pensent, ils imaginent que ça va être très dur de faire avouer cet individu.
Gendarmerie, ouvrez!
Alors, au départ, nous avons assisté à son interpellation et à la perquisition sur son lieu de domicile, parce qu'on voulait voir déjà comment elle allait réagir à la notification de sa garde à vue et à la perquisition chez lui, qui était en fait le domicile de sa compagne actuelle, qui était la prénommée Céline. Pour la petite anecdote d'ailleurs, au domicile de Céline, nous trouverons caché sur le bord de la fenêtre un contrat d'assurance vie d'une autre personne qui se prénommait Karine. Donc là, nous avions un élément matériel qui nous intéressait grandement, puisque là encore, on voyait un contrat d'assurance vie qui était suspect. Alors, Jamel L'Huilmi, c'est quand même un jeune homme assez musclé, puisqu'il pratique à cette époque-là la musculation. Il est assez grand, assez costaud, et effectivement, il en impose. Lorsqu'on le voit, crâne un peu, cheveux courts, presque crâne rasé, on voit qu'on a affaire à un bodybuildé, pratiquement, qui est assez, entre guillemets, comme disent les jeunes, assez beau gosse, et qui présente bien. Et qu'il est surtout beau parleur, parce que même au début de la garde à vue, il tente de séduire l'enquêteur. Il tente, au travers de ses réponses, de l'amadouer, de lui faire avoir de l'empathie vis-à-vis de lui, sur le fait que quand même, sa femme est morte, il a beaucoup de chagrin. On sent que tout ça, c'est pour essayer d'amener à faire douter l'enquêteur. Or, on le dit souvent, l'enquêteur doit poser ses questions sans état d'âme. Il ne doit jamais douter, en tous les cas, jamais montrer ce doute.
Le gendarme analyste comportemental est installé dans une pièce adjacente au bureau dans lequel L'Huilmi est interrogé. Mais grâce à une caméra et un micro, il voit tout et il entend tout.
Au cours de la garde à vue, l'enquêteur, il a déjà préparé ses questions. Il a, ce que j'ai dit souvent, il a la tête dans le guidon et il pose la question et après il rédige, puisque la procédure pénale est écrite, il rédige la réponse, mais la réponse telle qu'elle est vraiment donnée verbalement par la personne gardée à vue. C'est-à-dire qu'il ne doit pas interpréter, il doit retranscrire exactement. Ce qui fait qu'il n'a pas assez de temps pour se concentrer sur la réponse, le fond de la réponse. Donc là, dans notre rôle du DSC, c'est de voir comment elle réagit, s'il répond bien aux questions. On regarde notamment la morphogestuelle. La morphogestuelle, c'est regarder, c'est parce qu'on va l'évaluer au cours de son curriculum vitae. Par exemple, on va l'évaluer comment il est lorsqu'il n'est pas stressé. Lorsqu'il n'est pas stressé, il répond de telle manière, il n'a pas de tic, il n'a pas de toc, il n'a pas d'expression corporelle. En revanche, plus tard, lorsqu'on pose des questions gênantes, là, on les voit, nous, à travers la vidéo. Nous voyons les moments où, par exemple, il a un recul, où il va se pincer la lèvre, où il va réfléchir plus longuement. Il va donc, ce qu'on appelle, ne pas faire de réponse spontanée. Tout ça, pour nous, ce sont des indicateurs. Et là, on donne, par le biais du CHAP à l'enquêteur, quelques signe. On lui dit, attention, là, il tourne autour du pot, il n'a pas répondu à la question. Donc l'enquêteur doit insister, doit rebondir. Ce qui permet de l'encore plus le mettre à mal. Et en fait, les questions sont posées de telle manière pour arriver, c'est comme une partie d'échecs, pour arriver aux aveux. D'entrée, il nous dit, je comprends pas pourquoi vous mettez en garde à vue, je comprends pas pourquoi vous m'avez perquisitionné, pour autant je consens à répondre à vos questions. Il est très, à ce moment-là, sûr de lui. Il s'imagine que nous allons faire une garde à vue de quelques heures et que très rapidement, il va pouvoir s'en sortir par ses réponses et que nous allons le libérer.
Monsieur Lelmy, cet accident mortel de votre femme, il est tout de même très étrange. Vous n'aviez pas pour habitude de faire du vélo tous les deux? Et là, la seule fois où vous partez en promenade à vélo, accident. Et miraculeusement, vous en échappez. Mais comment vous osez me parler? Enfin, vous me prenez pour un vulgaire voyou? C'est une honte!
Au fur et à mesure de l'audition, il se rend compte que les questions sont donc de plus en plus gênantes, de plus en plus pointues, et il commence à s'énerver. D'ailleurs, lorsque une question a été très gênante, je m'en souviens bien, je l'ai vu se lever en pointant du doigt la caméra, en disant « Vous derrière, là, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais je ne comprends pas pourquoi vous en êtes rendu à vous en prendre à moi comme ça, c'est du grand n'importe quoi. » Il était vraiment en colère sur le fait qu'on puisse l'accuser d'abord de la tentative d'homicide et ensuite de l'homicide de sa femme. Le but principal, finalement, c'est une escroquerie à l'assurance. Donc, il a plutôt, pour moi, une personnalité, effectivement, de délinquant, qui allait jusqu'au meurtre, certes, mais en tout cas de cause, au départ, ce ne sont pas des gestes qu'il a commis, je vous le répète, sous le coup de la colère, sous le coup de la frustration, sous le coup émotionnel. Donc, c'était très réfléchi, bien construit. Pour moi, la difficulté pour lui dans ce dossier, c'est qu'il a eu le premier homicide est bien passé pour un accident. Il a touché plus d'un million d'euros et je dirais un peu comme les braqueurs, il a voulu continuer à aller chercher encore d'autres argent, ce qui l'a perdu. En fait, un braqueur qui commet un braquage, ça va marcher et au bout du dixième, malheureusement, il va tomber parce que c'est l'appât de gain qui l'a entraîné vers sa chute. Et là, c'est un peu la même chose. Il a commis le premier assassinat, cela a fonctionné. Le second, malheureusement, sa deuxième victime n'est pas décédée. Et malgré cela, il a quand même tenté d'avoir encore une troisième victime en lui prenant une assurance vie. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une intelligence telle qu'il se croit au-dessus des autres, qu'il pense que il va duper tout son monde et que son intelligence va faire en sorte qu'il va commettre le ou les crimes parfaits.
Ordonnance de mise en accusation de Jamel Lelmy. Jamel Lelmy indique que Julie Derouette l'accuse par vengeance. Elle ne supporte pas qu'il ait rompu avec elle. Il la qualifie de folle, mythomane et psychopathe.
pour moi, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a une certaine fierté et qui ne s'imaginait pas être pris, entre guillemets, au piège de ses stratagèmes. En gros, il pensait avoir organisé quelque chose qui ne serait jamais découvert. Et quelque part, dans sa personnalité qui me paraissait quand même assez égocentrique, ça le blessait. De ne pas être cru, alors que c'est un grand séducteur, un grand manipulateur, un grand menteur, il voyait très bien que face à nous, face aux enquêteurs et au département des sciences du comportement, personne ne le croyait. Et que du coup, il aurait du mal également à faire croire à toutes ces coïncidences, comme il l'entendait, aux magistrats, au procès.
Europe 1,
Ondelat raconte.
Côte B, Christophe Ondelat.
Jamel L'Halmi nie toute implication dans la mort de sa femme et dans la tentative d'assassinat sur son ex. En garde à vue, il ne lâche rien. Et face au juge d'instruction, non plus.
Monsieur L'Halmi, son objectif n'est pas de tuer, son objectif c'est d'avoir de l'argent. Il se trouve qu'il est obligé de passer par tuer quelqu'un pour obtenir cet argent. Aurélie Poirier, je suis juge d'instruction, j'étais en charge du dossier Jamel L'Halmi quand j'étais au tribunal d'Evry. J'étais intervenue en cours d'instruction, puisque je n'étais pas le juge d'instruction initialement saisi dans ce dossier. Je suis arrivée après en cours d'instruction, quand il y avait déjà quelques actes qui avaient déjà été faits. Il se servait des femmes soit comme une nourriture, donc il y avait toute une catégorie de femmes qui était une nourriture, on va dire une nourriture sexuelle, qui étaient ses maîtresses ou autres. Il y avait celles dont il se servait parce qu'il y avait un intérêt, notamment certaines qui ont pu l'aider dans des montages juridiques ou autres. Donc la séduction, là, elle était au service finalement de montages financiers pour investir toutes les sommes qu'il avait pu gagner des assurances. Et puis il y avait la dernière catégorie qui est en fait la catégorie de nos victimes, c'est celle dont il s'est servi pour obtenir ses moyens financiers. Donc effectivement ça ressortait du dossier qu'il y avait plusieurs catégories en fait. Les personnes étaient dans telle ou telle catégorie selon l'intérêt qu'elles pouvaient apporter.
Code B71, rapport d'enquête de personnalité. Au moment de son arrestation, Jamel L'Halmi a 32 ans, il est professeur dans un lycée technique. Il a été marié une première fois, son épouse est décédée dans un accident de la route. Il s'est marié religieusement 2 ans après la mort de son épouse. Cependant, Monsieur L'Halmi ne peut se montrer fidèle et multiplie les relations extra-conjugales de longue durée, menant de front au moins 3 vies sentimentales simultanées. Monsieur L'Halmi est un personnage énigmatique. Il peut être gentil, attentionné, calme, généreux, et d'un autre côté manipulateur, menteur et séducteur parvenant à avoir une certaine emprise sur autrui, notamment sur les femmes.
Donc non, il n'a pas du tout cherché à être dans la séduction avec moi. Il a plutôt été à la fin, presque à certains moments dans la flatterie, mais c'était pas de la séduction, c'était plus de la flatterie à certains moments. Parce qu'il l'avait déjà tenté avec ma prédécesseur. Donc je pense qu'il s'est adapté parce que ça n'avait pas vraiment marché avec ma prédécesseur, où il lui avait écrit des courriers qui étaient assez surprenants, puisqu'il lui avait écrit qu'il avait rêvé d'elle et qu'il l'avait vue avec un enfant dans les bras, le regarder. Il lui racontait ses rêves, il lui disait « j'ai rêvé de vous ». Donc on était dans une phase de séduction assez particulière dans les écrits qu'il avait fait. C'est pas tellement moi qui me suis adaptée à Monsieur L'Halmi, c'est plutôt lui qui s'est adapté au dossier et aux évolutions du dossier. Et on était co-saisis, on était 2 juges d'instruction sur le dossier. J'étais le juge 1, il y avait un deuxième juge. Et donc nous on avance. Et en fait, c'est plutôt Monsieur L'Halmi, en fait, dans ce dossier qui s'est adapté à nous et qui a eu différentes positions, différentes approches dans les interrogatoires, c'est-à-dire d'un interrogatoire à l'autre. Il ne se comportait pas de la même façon dans ses écrits. Il y a eu différentes approches, c'est-à-dire que sur certains interrogatoires, il était prostré, il refusait de répondre à des questions. Sur d'autres interrogatoires, il était beaucoup plus volubile. Sur certains courriers qu'il a envoyés, il y avait des courriers qui pouvaient être à la limite du menaçant. Et puis d'autres courriers où, d'une certaine façon, il distribuait un petit peu les bons points en me félicitant parce qu'il estimait que j'avais fait un acte qui lui convenait. Mais il m'encourageait à poursuivre dans une autre direction pour d'autres choses.
Madame la juge, je m'interrogeais sur votre objectivité et votre impartialité dans cette instruction. Aujourd'hui, c'est sur votre honnêteté intellectuelle que je m'interroge. Alors je vous demande une contre-expertise avec de véritables médecins experts qui ne soient ni vos amis, ni vos téléspectateurs, sans quoi je serai obligé de dénoncer ce charlatanisme médical auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris.
À un moment, il me dit, là j'étais un peu scotché quand même, pourtant j'en ai vu des types et des pas faciles.
Michel Agrapard-Delmas, experte psychologue.
Mais là, il m'a quand même un peu scotché. Il me dit, Madame l'expert, vous assurez votre maison, votre voiture. Vous devez aussi prendre plusieurs assurances sur la vie. L'avez-vous fait ? Ça va loin. Et là, je n'ai pas été bien parce que j'ai répondu, vous voulez m'épouser, monsieur Lamy ? Et là, à partir de là, il était foudre.
Code P22, expertise psychologique. Jamel Lelmy se présente ainsi. Je suis libertin comme Sade ou Casanova. Il lui sera rétorqué qu'il a oublié Landru et que Sade était un pervers. Cette réflexion sur son aspect libertin reviendra à plusieurs reprises. Il explique, négocie en permanence et tente de convaincre son interlocuteur.
C'est quelqu'un qui est musclé, qui est grand, qui est athlétique. C'est un homme assez ouvert, souriant, sympathique, qui fait semblant de collaborer en toute honnêteté. Truc. En fait, c'est un menteur, manipulateur, qui ment tout le temps. Ce qui fait qu'on note ce qu'il dit, après on vérifie, et on s'aperçoit que c'est faux. Il a du mépris pour les gens. Il pense que tous les gens sont bêtes. Il m'a pris pour une nunuche, hein. Il n'avait peut-être pas entièrement tort, mais il m'a pris pour une nunuche. Il n'imaginait pas que j'allais confronter l'enquête de personnalité, toutes les pièces que j'avais eues, etc.
Code B28, expertise psychologique. Jamel Lelmy évoque une biographie très valorisée, avec des manques, des trous, des oublis importants qu'il attribue au trauma de la mort de sa femme. Or, l'examen ne met pas en évidence de séquelles post-traumatiques.
Voilà, j'étais tellement traumatisée par la mort de ma femme que je suis tombée malade et que depuis je suis en arrêt maladie. C'est faux, c'est avant la mort. C'est pas un mythomane. Un mythomane, c'est un malade. C'est quelqu'un qui ment parce que dans sa tête, c'est pas clair, il y a des problèmes. Un mythomane n'a pas conscience de ce qu'il raconte. Lui, c'est complètement voulu, construit, élaboré et jeté en pâture.
Europe 1.
Ondelatte raconte.
Côte B. Christophe Ondelatte.
La Côte B de Jamel Lelmy révèle un beau gosse baratineur qui avait l'art de choisir ses proies, auquel il faisait miroiter un joli conte de fées.
Moi, j'aurais tendance à dire que plutôt il choisissait des femmes seules, des femmes isolées, fragiles psychologiquement, ce qui permettait en plus d'avoir une meilleure emprise sur elles.
Commandant Daniel Roussette, département des sciences du comportement de la gendarmerie nationale.
Au moment où il les rencontrait, elles étaient toutes en état de fragilité. Sa première femme était isolée dans un HLM, d'ailleurs à côté de chez ses parents de l'Essonne, alors qu'elle était à Pôle emploi. Sa seconde compagne venait de vivre une rupture et elle était femme seule avec enfant à la maison. Sa troisième victime, c'était une femme qui fréquentait les clubs échangistes, mais qui n'avait pas forcément toute sa tête d'un point de vue intellectuel. Donc on sent quand même qu'il faisait en sorte de les choisir pour peut-être que si quelque chose apparaissait comme suspect, celle-ci ne pourrait pas lui nuire. En tout cas, leur parole ne pourrait pas avoir autant d'impact qu'une personne qui pourrait paraître aux yeux de la justice comme quelqu'un assez intelligent pour ne pas raconter d'histoire.
Code B29. Rapport d'expertise psychologique. Jamel Lelmy possède une personnalité manipulatrice avec des traits pervers. Il fonctionne en permanence avec les autres sur un mode de domination et d'emprise avec des stratégies d'embrouille dans lesquelles la séduction devient une arme. Dans les filets de l'Olmi, il y a Julie Derouette. Ils se connaissent depuis un mois à peine et il parvient à lui faire avaler n'importe quelle couleur.
Il paraissait le prince charmant dès les premiers regards.
Divorcée avec deux enfants, Julie croit avoir trouvé l'amour avec Jamel. Elle ne s'alarme pas quand il lui fait signer des assurances vie pour plus de 4 millions d'euros en prévision d'un voyage en Algérie pour la présenter à sa famille avant le mariage.
Il m'a fait mentir sur mon statut professionnel. Il m'avait fait faire un faux contrat de travail donc dans son entreprise pour justement pouvoir avoir accès aux assurances vie plus facilement.
En réalité, j'interviens très très tôt dans cette affaire puisque je suis saisie par Julie Derouette au tout début de l'instruction.
Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
Pendant cet été où Jamel Lelmi a été interpellé, il va tout de suite faire une demande de mise en liberté, faire appel du refus de mise en liberté. Et dès ce moment-là, il la met elle en cause directement en disant « c'est une folle » et tout. Sa défense à ce moment-là est articulée sur ma cliente.
Ordonnance de mise en accusation de Jamel Lelmi. Fin octobre 2009, Julie Derouette, 26 ans, mère de deux enfants, rencontre Jamel Lelmi à Coco Island, un parc de jeux pour enfants qu'il dirigeait dans l'Essonne. Dès lors, Julie Derouette débute une relation amoureuse avec lui.
Tel rapace repère sa proie, il la repère. Hein, il la repère. Et à ce moment-là, il va lui faire le grand jeu. Donc, le grand jeu, c'est d'être galant, c'est d'être attentionné vis-à-vis des enfants, c'est de montrer qu'on a réussi, c'est de montrer aussi ses beaux abdominaux. Le grand jeu, c'est aussi de dire qu'il faut qu'on reste secret parce que sa famille accepterait pas forcément une union de lui. Et puis, il y a plein de choses. Alors, vous savez, cette idée de secret, en plus, ça donne un côté encore plus romantique à l'affaire. Et puis, il va mettre la cerise sur le gâteau en expliquant qu'en plus, c'est un homme malheureux, blessé, veuf. Donc, très rapidement, tout s'empile. Et je dirais que ma cliente, elle est dans un tourbillon de séduction, très planifié, très organisé, très bien fait, qui l'empêche complètement de réfléchir à quoi que ce soit parce que d'abord, il peut arriver à n'importe quel moment, et puis il faut qu'elle soit là, et puis il faut qu'elle soit prête. Et puis voilà, enfin bon, ça ressemble totalement à un conte de fées.
Ordonnance de mise en accusation. Il résulte des constatations, investigations et d'un rapport d'expertise que Julie Derouette, qui n'avait jamais précédemment établi de contrat d'assurance vie, était la souscriptrice de 4 contrats d'assurance décès, tous au profit de Jamel Lelmi. Ce dernier était potentiellement bénéficiaire d'un capital de 7 millions d'euros en cas de décès accidentel de Julie Derouette, rencontré un mois auparavant et signé sur une très courte période de 6 jours.
Il s'occupe de tout, il la dépose devant les agences, il remplit avec elle les papiers, il lui monte sur ordinateur, enfin bon, voilà. Et puis, il y a forcément, pour prendre ces assurances vie, qui en fait sont des assurances décès, il y a des primes à verser. Donc, il lui donne l'argent pour qu'elle puisse payer ses primes. Hein. Donc, on a les justificatifs de tout ça. Hein. Il verse, parce que les assurances décès sont très élevées, donc les primes sont très élevées, donc il lui verse des sommes importantes qui ensuite vont partir aux assurances. Elle ne comprend rien et elle ne se préoccupe pas de tout ça.
Jamel Lelmi poursuit le conte de fées. Il demande à Julie de la rejoindre au Maroc et de là, il dit vouloir l'amener en Algérie pour lui présenter ses parents. Conquise par la démarche, Julie prend l'avion pour Marrakech avec des paillettes plein les yeux.
S'il vous plaît, pour des raisons de sûreté, tout objet abandonné sera immédiatement détruit par les services de police.
Elle voit rejoindre son prince charmant. Enfin, elle est dans l'avion. C'est une jeune fille qui n'a jamais pris l'avion, ou presque de sa vie. Si elle l'a pris une fois, c'est tout. Donc, voilà. Alors, il l'a bien prévenu qu'il ne serait peut-être pas à l'aéroport parce qu'il pourrait être en retard et que s'il n'est pas à l'aéroport, il faut qu'elle aille à tel hôtel. Donc, elle va à tel hôtel. Effectivement, il n'est pas là. Elle l'attend. Elle s'inquiète, il met beaucoup de temps à venir. Puis finalement, il arrive, il a une bague, il se met à genoux et lui dit « on s'en va ». Là, il lui explique qu'ils vont partir à deux voitures. Ça fait partie du plan pour traverser la frontière. Ils sont à Marrakech, hein, la frontière avec l'Algérie, elle n'est pas tout à fait à côté. Mais bon, elle fait complètement confiance à son homme, à son prince charmant. Donc, il lui explique qu'ils vont se suivre en voiture. Donc, elle monte dans sa voiture, elle suit sa voiture à lui. Donc Julie prend la voiture de location qui lui est attribuée, Jamel est dans sa voiture devant et ils prennent la route. Elle le suit, elle a ses phares devant elle et elle le suit. À un moment, elle perd de vue les phares devant elle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien devant elle. Elle commence à paniquer, on est de nuit, hein. Faut savoir que c'est la nuit. Elle commence à paniquer un peu, elle se demande où il est et une voiture... La colle à l'arrière, commence à la coller, elle voit les phares de la voiture derrière qui la touche et elle regarde elle, et forcément elle perd le contrôle de son véhicule. Elle a le souvenir de partir dans les décors.
Je suis percutée par l'arrière de mon véhicule.
Julie Derouette, ex-petite amie de Jamel Lelmi.
Mais plus de l'intimidation que vraiment un choc. Un premier individu me tenait les deux bras côté passager et l'autre m'a tenu la tête dans le volant avec son coude et m'a roué de coups de poing au niveau des cervicales qui ont cassé.
Il voulait vous tuer.
Il voulait me tuer.
Elle a aussi le souvenir qu'on lui fait boire quelque chose qui n'est pas bon. A priori, c'est de l'alcool. Et qu'on lui prend son appareil photo. Voilà. Dans lequel elle avait commencé à prendre des photos de la soirée avec Jamel. Et elle s'évanouit. Il fait froid parce qu'on est, en mois de décembre, hein. Il fait très froid la nuit. Elle est limite vivante, voilà. Elle est prise en charge. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là. Elle ne sait pas ce qui s'est passé.
Les agresseurs s'enfuient à l'arrivée des pompiers. Julie est opérée au Maroc et en France. Elle soupçonne son fiancé et le lui dit. Peu après, les contrats d'assurance vie disparaissent lors d'un cambriolage sans effraction au domicile de Julie. Jamel a la clé. Elle porte plainte, les gendarmes font le rapprochement avec la mort 2 ans plus tôt de la première femme de Jamel. Les assurances-vie avaient versé 1 million d'euros aux veufs.
Plongé dans l'esprit des plus grands criminels. Ondelat raconte.
Côte B sur Europe 1.
Christophe Ondelat.
Dans la côte B du dossier d'instruction de Jamel Lelmi, on trouve comme toujours... l'enquête de personnalité, qui remonte jusqu'à la naissance de l'accusé, pour tenter de comprendre. Mais là, pour une fois, pas d'enfance fracassée et pas de traumatisme majeur.
Effectivement, il ne ressortait pas dans sa jeunesse des éléments de personnalité.
Commandant Daniel Roussette, département des sciences du comportement de la gendarmerie nationale.
Et sans entendre qu'il aurait pu être battu, violenté, mal aimé, qui aurait pu expliquer un trait de cette personnalité.
Code P63, rapport d'enquête de personnalité. Jamel est le 4e d'une famille de 6 enfants. Il est décrit comme le chouchou de sa mère. La famille vit modestement en région parisienne. Le papa encadre des cours coraniques à la salle de Brétigny-sur-Orge. Les enfants vivent à l'occidental et entretiennent des relations hors mariage. Cela pose problème à Madame Lelmi qui déclare « Les seuls mariages solides sont ceux entre personnes de même culture. Le mariage avec une Française, c'est pas sérieux. C'est plus solide avec une femme du pays, car elle reste pour le meilleur et pour le pire. » Jamel Lelmi n'accepte pas cette position et il va tout faire pour cacher ses liaisons. Pour être tranquille et conserver sa place de chouchou, il a continué de faire croire à sa mère qu'il se marierait un jour avec une femme du bled. Et surtout, ne l'a jamais tenu informé de sa vie privée, hormis lorsqu'il s'est marié en novembre 2006 et octobre 2009.
Vis-à-vis de sa famille, c'était un gentil garçon, travailleur, qui a fait des hautes études et qui est devenu professeur. Mais dans la vie de tous les jours, dans la société, il se comportait de toute autre manière. Il était vraiment quelqu'un qui savait avoir de l'entre-gens. Oui, Jamel Lelmy aimantait tous ceux qu'il avait à rencontrer, d'une part de par sa personnalité et aussi par ce qu'il dégageait. C'était quand même un homme assez séducteur, mais beau en apparence, qui faisait de la musculation et qui donc avait quand même un certain paraître. C'était ce qu'on a appelé vulgairement un beau gosse, et il en profitait d'une part par son physique et d'autre part par sa facilité de parole.
Code B56. Interrogatoire de Jamel Lelmy devant la juge d'instruction. La juge. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement ? Réponse de Jamel Lelmy. Je vis très mal cet enfermement. Il rentre quatre murs dans une cellule de 9 mètres carrés. J'ai pas d'intimité. Toutes les demi-heures, un surveillant vient, je suis réveillé. Le fait de ne plus avoir de courrier, le fait de voir mon père dans des parloirs dégueulasses où les prisonniers s'envoient à l'air avec des prostituées et laissent des résidus de capotes trouées. Il y a des effluves, il y a des odeurs. En plus, le fait de faire l'objet de fouilles nues, c'est invivable. Ma famille me manque. Céline me manque. La presse qui en rajoute, qui me salit. Les détenus en rajoutent également. Je sens bien leur regard accusateur. Pour eux, c'est comme si on était condamné, comme si on était déjà jugé. C'est un truc de fou, un truc de malade. Franchement, madame le juge, je suis innocent de tout ce qui a pu être dit, fait et proféré comme allégation.
Il est mis en examen pour des assassinats, donc où il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, donc... J'ai envie de dire, c'est presque humain de mentir dans ce genre de dossier. Aurélie Poirier, je suis juge d'instruction. Parce que moi, je sais que souvent, les gens me disent, mais quel intérêt j'aurais à mentir? Bah, écoutez, quand on encourt la réclusion criminelle à perpétuité, c'est quand même une très bonne raison de mentir, quoi. Cette opposition, c'est parce que quand il nous faisait des réponses, on allait vérifier derrière ces réponses, ce qui est le rôle du juge d'instruction. Et souvent, les vérifications se retournaient contre lui. Donc, de façon assez classique, quand il garde le silence, bah, on peut pas rebondir et aller faire des vérifications. Donc, ça coupe tout de suite le débat et les investigations.
Sa personnalité, bon, je crois que pour un psy, elle est limpide. Il est tout en toc.
Michel Agrapard-Delmas, experte psychologue.
Il est tout en toc parce qu'il ment tout le temps pour donner lui une image belle et bonne. Mais c'est un type intelligent, brillant, qui dit qu'il est hyper bon en français, etc. Et quand il est un peu en porte-à-faux, et bien, il a un discours pour embrouiller son interlocuteur. Voilà, il les met dans le nuage.
Code B73. Lettre de Jamel Lelmy à la juge d'instruction. Madame la juge, aujourd'hui, les médecins experts se sont présentés pour m'expertiser. Les surveillants m'ont demandé de me tenir prêt pour 14h10, car le rendez-vous avait lieu à 14h15. Je me tenais prêt à 14h. Je les ai attendus jusqu'à 14h15. En vain. Je ne sais pas pourquoi j'avais rendez-vous avec tes experts l'après-midi, car nous avons convenu, au regard de la procédure, que le sport tient une place importante dans ma vie et que ce rendez-vous perturbait ces séances qui sont essentielles au bon déroulement et à la sérénité de mon injuste détention.
Ton avocat a demandé un complément d'expertise. C'est-à-dire, un complément, ça se fait avec le même expert qu'au premier coup. Hein, c'est pas une contre-expertise, c'est un complément. Donc, nous avons pris rendez-vous, parce qu'il faut prendre rendez-vous pour voir M. Lelmy. Il est arrivé avec trois quarts d'heure de retard, avec un mot en disant que c'était lors de son sport, donc il fait du sport, et qu'il ne viendrait pas. Et il s'est montré très grossier, agressif, menaçant. La vraie facette de sa personnalité qu'il n'avait pas révélée lors du premier entretien. Nous ne pouvons, en l'occurrence, que constater la personnalité versatile, opposante et agressive de M. Jamel Lelmy, bien loin des premiers contacts. L'enquête de personnalité met en évidence différents traits de caractère mensongers et manipulateurs déjà évoqués dans la première expertise. J'ai conclu en disant que l'attitude hautaine, méprisante, opposante et agressive de M. Lelmy, qui a fui ce second examen après l'avoir demandé, va en totalité confirmer les traits de sa personnalité décrits dans ce premier rapport, notamment son narcissisme et sa démarche dominatrice. C'est sûr qu'il n'a pas dû être content quand il a lu ça.
Code B 74. Lettre de Jamel Lelmy à la juge d'instruction. J'ai eu la désagréable surprise de tomber sur les médecins experts qui m'avaient déjà expertisé la première fois et pour lesquels j'ai demandé une contre-expertise. La première expertise, la criminologue s'est permise plusieurs écarts, comme les premiers mots qu'elle a tenus. « Bonjour, alors vous êtes une star, vous en avez de la chance, on ne parle que de vous à l'extérieur. » Avec un large sourire qui en disait long sur ses conclusions, orientées uniquement sur ma culpabilité.
Je rencontre Jamel Lelmy à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui est la plus grande maison d'arrêt d'Europe.
Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmy.
Et là, je vois un détenu qui, d'une certaine manière, irradie. C'est-à-dire que, en fait, il porte en lui la force de conviction qu'il souhaite immédiatement me transmettre d'un innocent. Et c'est ainsi qu'il se présente et c'est ainsi qu'il me choisit comme l'un de ses avocats pour mener ce combat judiciaire. Il garde la forme, si je puis dire, il entretient son corps par des activités physiques et puis surtout il a une force mentale très importante. Il se défend bec et ongle, il proteste avec force et vigueur de son innocence et il indique que tout cela est une erreur judiciaire. Il a su trouver la force mentale pour affronter cela. En même temps, vous savez, on est présent, nous les avocats, une heure, deux heures au parloir. Le reste du temps, on n'est pas en détention avec eux, on ne sait pas ce qui se passe entre les murs. Donc, c'est très difficile d'avoir une vision complète, si je puis dire, sur l'état psychologique d'un détenu quand on le voit uniquement dans le cadre d'un parloir avocat.
En 2014, Jamel Lelmy est jugé devant la cour d'assises de l'Essonne. Il traîne avec lui le surnom de Barbe Bleue de l'Essonne. Pour se défendre, Lelmy compose une défense tranchante, aux côtés de Maître Kaminski, Éric Dupont-Moretti, qui n'hésite pas à s'en prendre à la crédibilité de Julie.
Je pense que le mobile qu'on lui prête a balayé comme un tsunami le reste. Et le reste, c'est à l'évidence un premier fait que la police a considéré comme étant un accident de la route. Et un deuxième fait qui n'est étayé que par la parole d'une jeune femme, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle a été variante.
On s'attaque au dossier. On a passé un mois d'audience. Chaque jour était un combat pour l'innocence de Jamel Lelmy.
Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmy.
On n'a pas de preuves objectives et objectivées après toutes ces années d'enquête qui permet d'impacter avec certitude la culpabilité de Jamel Lelmy. Cela ressort plus d'une forme de conviction que d'une forme de preuve patente, évidente et qui, dans ce dossier, ne ferait aucun doute.
C'est un mentor. C'est un manipulateur, c'est un authentique pervers.
Michel Agrapard-Delmas, experte psychologue.
Les pervers, ils se décrivent par le fait qu'ils sont menteurs et manipulateurs. C'est les deux éléments qui caractérisent leur personnalité. Et puis, les pervers, contrairement aux psychopathes, parce que c'est pas un psychopathe, c'est un pervers, les pervers ont toujours besoin de l'autre. La différence entre un psychopathe et un pervers. Vous êtes sur un chemin. Vous croisez un psychopathe. Et vous ne pouvez pas passer à deux. Le psychopathe, il va vous casser la figure, vous jeter dans le ravin et il va passer. Ça, c'est le psychopathe. Il est violent, il est méchant, il est agressif. Et bon. Vous êtes face à un pervers. Le pervers, il ne va pas vous faire de mal, mais il va vous convaincre de vous suicider pour pouvoir passer.
Je trouve que le mot manipulateur est excessif. Il est séducteur, je dirais que c'est un homme à femme.
Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi.
Ce qui ne fait pas de lui un tueur, ce ne serait pas le premier ni le dernier à être un homme à femme, si je puis dire. Et en réalité, je pense que beaucoup de femmes dans le dossier tombent vite amoureuses de lui. C'est ce qui ressort des éléments de ce dossier.
Elle ne se cache pas. Plus que tout, elle veut faire entendre sa voix. Mais aujourd'hui, lasse des menaces qu'elle dit recevoir, elle dissimule son visage. Céline est la compagne de Jamel Lelmi. Ils sont pacsés, mariés religieusement. Mais c'est surtout un témoin clé de la défense. Une jeune femme qui accuse Julie Desrouettes d'avoir tout inventé par dépit amoureux.
Elle a menti, au moins sur son coma, ensuite sur l'heure, ensuite sur les conditions. Et ensuite sur l'accident, les tonneaux, ce qui n'était pas vrai. Donc ça fait déjà pas mal de mensonges. Et on parle de manipulateur. Alors moi, il m'a pas manipulé. Mentir à des femmes, effectivement. Quand on est adultère, on peut le prendre pour de la manipulation maintenant. Ça reste des mensonges d'hommes adultères.
La cour, malgré le soutien de sa compagne du moment, la cour d'assises de l'Essonne ne croit pas en l'innocence de Jamel Lelmi. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans.
Oui, Jamel Lelmi a accueilli ce verdict, la tête baissée, complètement rentrée dans les épaules, visiblement abattu, lui qui, jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers mots ce matin devant la cour, a continué à proclamer son innocence. Il va donc faire appel, c'est décidé. Il a longuement parlé avec ses avocats à l'issue du verdict, ça veut dire qu'il y aura un nouveau procès. Mais pour les victimes, cette condamnation, déjà aujourd'hui, est un immense soulagement. La mère et la sœur de la première épouse de Jamel décédée n'ont pu retenir un petit geste de victoire avant des larmes silencieuses. Mais pour Julie, en revanche, c'était un trop-plein d'émotions, de tensions nerveuses accumulées. Elle, la survivante, taxée de mythomane par la défense de Jamel Lelmi, a aujourd'hui gagné son combat, qu'on la croit enfin. Dans les bras de ses parents, elle s'est effondrée en sanglots jusqu'au malaise et après une brève intervention des pompiers, elle a simplement lâché ces quelques mots « Je suis épuisée et soulagée ».
Jamel Lelmi, avant d'être condamné judiciaire, a été condamné par le tribunal médiatique.
Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi.
Il faut savoir que l'une des parties civiles a complètement nourri le tribunal médiatique, faisant de lui un coupable avant l'heure et faisant de lui un accusé présumé innocent qui arrive devant une cour d'assises avec un handicap de notoriété colossal, puisque son procès avait été, et de manière hachée menue, comme on dit, fait dans les médias. Il était déjà médiatiquement coupable. Donc, au fond, c'était un handicap colossal.
Quand on le présente comme le barbe bleue de l'Essonne...
Maître Éric Dupont-Moretti, avocat de Jamel Lelmi.
Quand on le présente comme on a d'ailleurs présenté Dominique Strauss-Kahn, comme on présente d'autres personnages, voilà, ça nuit totalement à ce qu'est la présomption d'innocence. C'est antinomique avec la présomption d'innocence. Et naturellement, ça signifie que quand les jurés, qui ne sont pas des professionnels, entrent ici, ils rentrent déjà avec une image préconçue.
En appel, Jamel Lelmi ne convainc pas non plus. Il est à nouveau condamné à 30 ans de prison avec 18 années de sûreté. Tous ses biens immobiliers lui ont été confisqués. C'était On de la Traconte, côte P. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby, réalisation Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin. À demain à 14h. Bon après-midi. Salut.
Retrouvez On de la traconte, Côte B, tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.